It is estimated most human beings only use 10% of their brain's capacity.
The other 90% standing idly by for spare capacity.
10% of our brain. Now, I don't know about you, but I thought this was crazy.
Une légende tenace voudrait que nous n'utilisions que 10% des capacités de notre cerveau et que si nous avions accès aux 90% restants, eh bien nous atteindrions des états de conscience supérieurs, nous pourrions parler, je ne sais pas, toutes les langues du monde, connaître par cœur l'intégralité de la recherche du temps perdu, voire, pour les plus mystiques, communiquer par la pensée ou développer toutes sortes de pouvoirs parapsychiques exotiques. Mais qu'en est-il vraiment? Pourquoi n'utilisons-nous pas tous nos neurones en même temps? Y a-t-il des zones du cerveau que nous exploitons peu ou pas, ou moins que d'autres? Est-il possible de maximiser l'emploi de nos petites cellules grises? Bonjour Yves Agide.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Alors est-ce que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau?
Je ne sais pas d'où vient cette idée. Probablement on dit que c'est parce que dans le temps on croyait que dans le cerveau il y avait des neurones et des cellules gliales, d'autres cellules non neuronales. Les neurones, ça sert à faire ces circuits qui permettent de passer toutes les informations, puis les cellules gliales sont autour. On disait qu'il y avait 10 fois plus de cellules gliales que de neurones. Maintenant, on sait que tel n'est pas le cas, il y en a à peu près autant. La question que vous posez, pour moi, c'est qu'en est-il dans la réalité? Je verrais deux arguments. Le premier, c'est que notre cerveau fonctionne en permanence avec une puissance de frappe absolument extraordinaire, puisque le cerveau, qu'il soit éveillé ou qu'il soit endormi d'ailleurs, dépense à lui seul 10 fois plus d'énergie que tous les organes du corps. Là, c'est pas un endroit du cerveau, c'est pas 10%, c'est l'ensemble du cerveau qui consomme 10 fois plus d'énergie que le reste du corps. Donc c'est pas 10%, c'est tout le cerveau. Et le deuxième argument, c'est plus subtil. Imaginez que j'attrape ce gobelet qui est là avec du café. Quand je prends ce gobelet, on va se dire, oui, je fais un geste moteur et ça va allumer, on le voit d'ailleurs en IRM fonctionnel de temps en temps, ça va allumer une région très particulière qui contrôle la motricité dans notre cortex cérébral, dans la région frontale, peu importe. Mais si vous réfléchissez, quand j'attrape ce verre, je fais un mouvement considérable. Mes doigts attrapent le verre, j'étends le bras, mon épaule se met en avant, ma posture change. Quand je fais ça, c'est pas seulement moteur. Chaque fois que j'approche milliseconde par milliseconde, j'ai des informations de mes muscles qui vont donner des informations à mon cerveau. Donc je mets ensemble toute la sensibilité. En plus, quand je prends mon verre, je fais attention, je ne vous regarde plus. Donc tous les systèmes dans le cerveau qui gèrent l'attention sont mis en jeu. Je regarde ce gobelet, donc mon cortex occipital qui voit, etc. Mais peut-être le plus important de tout, c'est pourquoi je prends ce gobelet. Soit j'ai l'idée interne de me dire, tiens, je vais prendre le gobelet, par exemple parce que j'ai soif, entre parenthèses, si j'ai soif, ça veut dire que je mets en jeu toutes les régions de mon cerveau qui jouent un rôle dans la satiété. Mais surtout, je décide de le faire. La décision, toute la décision dans mon cerveau, eh bien, elle est prise par la partie antérieure du cerveau, le cerveau frontal. Donc, si vous voulez, à chaque fois, même pour un geste aussi simple que celui-là, finalement, toutes les parties, à des degrés divers, se mettent en route.
Il y a autre chose aussi, peut-être, qui est de dire que si nous n'utilisions pas 90% de notre cerveau, à ce moment-là, on pourrait avoir des tonnes de lésions, il ne se passerait rien, puisque ça toucherait des zones qui sont non utilisées.
C'est vrai, oui, vous avez absolument raison, c'est pas vrai. Il n'y a pas de région qui soit silencieuse. Toutes les régions du cerveau, on peut le résumer de manière extrêmement grossière, un cerveau c'est un peu moins de 3 livres. La moitié du cerveau postérieur reçoit toutes les informations de l'environnement. Par exemple, auditive, gustative, olfactive, le toucher, surtout la vision. Nous sommes des êtres, les êtres humains qui voient, qui ont des capacités perçues. Et puis, les informations sont traitées dans le cerveau, et ça va donner de l'action. Ça, c'est l'action, tout ce qui est action, donc qui s'exprime par du mouvement, entre parenthèses, eh bien, c'est la partie antérieure qui le fait. Donc, à chaque fois, toutes les régions du cerveau ont leurs petites fonctions. Dans le temps, on disait qu'il y avait quelques régions du cerveau qui étaient, entre guillemets, silencieuses. On le disait, notamment dans la région frontale. En réalité, toutes ces régions sont impliquées dans des fonctions très subtiles, très, très subtiles. Par exemple, une région toute petite ici en avant va jouer un rôle dans la décision provoquée par une émotion, c'est un tout petit endroit, et qui est reliée elle-même à la décision intellectuelle, etc. Pour explorer des choses aussi subtiles, certaines fonctions mentales qui jouent un rôle, par exemple, dans la conscience, dans la mémoire, dans le langage, dans la stratégie d'action, etc. À ce moment-là, il faut effectivement des tests assez subtils pour le mettre en évidence. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'avait pas vu à l'époque.
Aujourd'hui, on a une cartographie complète, on sait exactement quelle zone correspond à quel type de fonction. Parfaitement, il n'y a plus de nombre au tableau ?
Oui, parce qu'on commence à comprendre comment fonctionne le cerveau, et notamment, quand il dysfonctionne en cas de maladie du cerveau. Mais le problème, c'est que quand vous vous posez cette question, vous faites allusion à un certain localisationnisme, vous savez, dont on a longuement parlé au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le centre du langage, le centre de la lecture, le centre de la perception visuelle qui est ici. Tout est organisé en circuit qui fait circuler les informations. Donc tout est relié à tout. Ce qu'il y a, c'est de penser qu'il y a comme un hub. Vous savez, dans les aéroports, vous avez un hub où tout se concentre. Alors, il y a des régions qui jouent un rôle prépondérant dans la genèse, dans le contrôle de certaines fonctions mentales.
Pour des gens qui ne sont pas concernés par les problèmes du vieillissement et qui veulent mettre à profit, maximiser leur capacité d'apprentissage et de concentration, il y a des techniques ou est-ce que tout ça c'est un peu du flan?
C'est pas du flan, on peut mettre des techniques, c'est des recettes, c'est des trucs. Moi je plaide pour le bon sens. Bon, si on mange trop gras, c'est pas bon. Ça vous met du cholestérol et ça donne de l'athérosclérose. Il faut un régime équilibré dans la vie. Eh bien, il faut agir avec bon sens. Bon, par exemple, je pense que pour reprendre la question des personnes âgées, je trouve que c'est quand même tout à fait sain de leur proposer de faire des promenades régulières, 3-4 promenades par jour, de sortir, etc. Tout ça, c'est du bon sens. Alors maintenant, les recettes, ça peut être pas mal. Bon, le problème, c'est qu'il faut pas que ces recettes soient mauvaises. Par exemple, il y a des gens qui font des régimes avec du jeûne, par exemple, qui ne mangent plus. Bon, si vous voulez, c'est dangereux. Bon, il y a effectivement des petites escroqueries avec des régimes tout à fait qui sortent de l'imagination de quelqu'un, ça ne repose sur rien. Je pense que pour le public, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'il fait quelque chose, il faut que ça repose quand même sur des bases scientifiques validées. Jusqu'à un certain point, quoi. Que quelqu'un ait des idées, c'est très bien, mais il faut les valider avant que ça soit appliqué par l'ensemble de la population dans la société.
Comment se fait-il qu'aujourd'hui, mon cerveau à moi, que j'essaye d'entraîner dans la fleur de l'âge, la quarantaine, ait plus de mal à retenir et à garder le niveau d'espagnol que j'avais il y a 10 ans que de se souvenir des paroles de Comme un ouragan de Stéphanie de Monaco?
Oui, mais vous parlez souvent espagnol?
J'ai parlé longtemps espagnol, j'ai été bilingue en espagnol et j'ai perdu mon niveau.
Et vous avez perdu, mais vous me parlez plus.
Ben non, je le pratique
plus. C'est normal,
oui, mais
d'un autre côté...
J'ai pas réécouté Comme un ouragan de Stéphanie Monaco depuis 10 ans.
Je le connais
et je me souviens des paroles.
Je connais ça à propos du suédois, puisque je suis d'origine scandinave. Si je ne vais pas en Suède, je ne parle plus. Si je reste 4-5 jours là-bas, ça revient. Alors, je vous conseille d'aller à Madrid et de reprendre en 2-3 jours, vous retrouverez votre langage.
Mais pourquoi est-ce que la mémoire conserve ça, alors qu'on ne conserve pas d'autres choses qu'on pourrait estimer plus utiles?
Parce que les choses apprises dans l'enfance, c'est-à-dire au moment où le cerveau qui pesait 300 grammes à la naissance et qui va en faire près de 3 livres, y croit. Et les neurones se développent, créent des synapses entre eux qui finissent par se cristalliser. Donc ce que vous avez appris comme souvenir très ancien quand vous aviez 14 ans ou même quand vous aviez 5 ans, eh bien ça reste cristallisé, c'est là. C'est la même chose, par exemple, prenez l'exemple du ski. Quelqu'un fait du ski, il arrête pendant 30 ans. Bon, il a l'impression qu'il peut. On le met en haut d'une piste, il dit « j'y arriverai jamais ». Il fait 2-3 tournants, il y arrivera.
Merci beaucoup Yves Agide, je rappelle que vous êtes neurologue, fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.